Dès qu'une personne va voir un café glacé, et ben la table d'à côté va en commander un, puis celle d'à côté aussi. Et en fait, on se retrouve avec une commande, puis avec 4-5 commandes qui arrivent derrière. Il y a un côté gourmand, il y a un côté alléchant dans le café glacé. Et visuellement, je sais pas si c'est le fait que le verre soit un peu givré ou cette décomposition du café, du lait, de toutes ces couleurs qui donnent autant envie, mais c'est assez fou comme cette boisson, elle fonctionne bien.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Avec l'arrivée des beaux jours, on a parfois envie de se poser en terrasse pour se commander un café, mais aussi une boisson désaltérante. Le premier par habitude de comptoir, le second par envie de se rafraîchir. Ça tombe bien, la combinaison des deux est possible et elle porte un nom, le café glacé. Dès que le printemps est là, il m'arrive souvent d'en commander, en particulier dans les coffee shops où le café glacé est souvent à la carte. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette boisson n'est pas une création moderne popularisée par une nouvelle génération de baristas. On boit en effet du café froid depuis bien plus longtemps. L'ancêtre du café serait le mazagran, boisson née en Algérie en 1840. À l'époque, les troupes coloniales françaises situées dans la forteresse de Mazagran, ville côtière au nord du pays, avaient pour habitude de consommer cette boisson du même nom, préparée à partir de café et d'alcool. Le mazagran était servi dans des tasses locales, hautes et sans anse, en forme de verre à pied que l'on trouve aujourd'hui souvent dans les vides-greniers du sud de la France. Par métonymie, le mazagran désigne aujourd'hui le nom du récipient. Il y avait alors plusieurs manières de préparer le mazagran. Soit à partir d'un café chaud versé sur des glaçons, soit avec un café directement mélangé à de l'eau froide. Ce qu'il y a de fascinant avec le café glacé, c'est qu'il prend différentes formes à travers le monde. Il y a le café liégeois, mi-dessert, mi-boisson, constitué de glace au café et de glace à la vanille, servi dans un café froid avec de la crème fraîche. À noter d'ailleurs que le café liégeois ne vient pas de Liège en Belgique, comme on pourrait le croire. Le café liégeois, c'est un café viennois auquel on a ajouté de la glace et qu'on a renommé ainsi à Paris suite à la bataille des forts de Liège pendant la Première Guerre mondiale, parce que son nom faisait trop penser à l'Autriche et donc à l'Empire allemand ennemi. Il y a aussi en Italie l'affogato, qui est un expresso servi avec une boule de glace à la vanille. Ou encore au Vietnam, le café soda, qu'on prépare avec un filtre à café en inox qui vient faire goûter le café dans un verre tapissé de lait concentré avec des glaçons. À ce stade de la discussion, faisons la distinction entre café glacé et café frappé. Le café glacé est ce café soit refroidi par des glaçons, soit infusé à froid. Le café frappé, lui, est plutôt une forme de granité au café, soit des glaçons secoués avec du café dans un shaker. Et si, comme on l'a dit, l'ancêtre du café glacé est le mazagran né en Algérie, l'ancêtre du café frappé, lui, serait né en Grèce, en 1957. L'histoire se passe à la foire internationale de Thessalonique. Selon la légende, c'est en voulant boire du café instantané sans avoir d'eau chaude sous la main qu'un employé de Nestlé a l'idée de secouer dans un shaker la poudre de café avec de l'eau froide et un peu de sucre, créant au passage le premier café frappé. Il y a décidément plein de façons de boire du café froid, glacé ou frappé. À Marseille d'ailleurs, on consomme généralement son café glacé avec une pointe de sirop d'orgeat pour le sucrer. En ce mois de mai où les Marseillais et Marseillaises ont l'air d'avoir officiellement ouvert la saison de la baignade, les tables de certaines terrasses se remplissent de café frappé et café glacé, signe des beaux jours. Pour en savoir plus sur ce hit caféiné de l'été, je suis allée à la brûlerie Moka où l'on boit un excellent café glacé servi avec du lait de la laiterie marseillaise et du sirop d'orgeat maison préparé par la famille tunisienne Journaux à Noailles. J'ai commencé par demander à Iris Michalon, la tenancière, ce qu'évoque le café glacé pour elle.
Les premiers vrais souvenirs de café glacé que j'ai, c'était en 2013. Je suis partie en Chine, rejoindre un ami. Et on était en plein mois de juillet, Shanghai, 45 degrés. Et en fait, c'était dur de sortir de ces apparts climatisés parce qu'on était sous un énorme smog et une chaleur écrasante. Et en fait, juste en bas de l'immeuble, il y avait une chaîne. Et effectivement, instinctivement, plutôt que de boire un café chaud, j'ai eu l'envie d'une boisson fraîche et rafraîchissante. Donc j'y suis vraiment pas allée pour la qualité du café, mais plus pour ce côté, j'ai besoin d'avoir ma petite dose de caféine qui va me donner envie d'aller me balader dans la ville et de me sentir un peu fraîche, quoi.
Le kick du café qui est agréable,
ouais.
Mais en même temps, donc, le côté désaltérant de cette boisson qui est une boisson donc servie avec des glaçons.
Un des grands avantages du café glacé, alors ça va dépendre des endroits bien sûr, mais là typiquement quand on n'est pas sûr de la torréfaction, de l'origine, de la production de ce café, de la qualité du café, le fait de le boire en version glacée, là c'était avec du lait, ça vient atténuer l'amertume, ça vient lui donner un peu plus d'atouts, d'arguments quoi.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Il a d'un coup un avantage supplémentaire en plus.
Exactement.
D'être du café. Si c'est du café moyen, mais que quelque part, on te le prépare, on te l'agence d'une certaine manière, il va tout à coup aussi être pratique dans ta journée parce qu'il va te permettre de te désaltérer au passage. Que tu dis, ça me fait beaucoup penser à ce que je consomme énormément quand je suis au Vietnam l'été dans la rue, le café Sueda, qui veut donc dire littéralement café au lait avec des glaçons. Café Sue, ça veut dire lait, et Da, ça veut dire glaçon. Et c'est un café en plus donc qui est avec du lait concentré, et on ajoute aussi des glaçons. Et effectivement, je pense qu'il y a des endroits où, quand je le commande, le café n'est pas forcément de méga bonne qualité. Enfin, il y a des endroits où c'est vraiment du café très très bon, mais il y a d'autres fois où c'est probablement plus des chaînes, où c'est fait un peu rapidement et peut-être pas avec le meilleur des cafés sourcés. Mais le lait concentré donne le petit côté gourmand. Mmh. Et les glaçons avec aussi, c'est exactement ce dont tu as besoin quand tu veux te réveiller en pleine rue et qu'il fait 30 degrés, quoi.
C'est la récompense, et je pense effectivement que ce lait concentré, ce lait sucré, je sais que le Vietnam est quand même principalement producteur de Robusta.
C'est ça, exactement.
Qui sont quand même, de base, j'imagine que là-bas, c'est quand même beaucoup plus torréfié que ce que nous, maintenant, troisième vague du café, tout ça, que ce qu'on consomme à la brûlerie Moka ou dans d'autres petites torréfactions. On doit avoir beaucoup d'amertume en tasse de base. Et du coup, ce lait concentré, ça doit vraiment permettre d'arrondir un peu l'amertume et d'avoir un meilleur équilibre, en fait, en tasse, quoi.
Est-ce que tu en connais d'autres en tant que spécialiste du café? Est-ce que tu connais d'autres cafés glacés, frappés à travers le monde?
C'est encore une fois lié à l'Asie. En 2018, on est parti au Japon avec mon compagnon. Et pareil, c'était le printemps, il commençait à avoir des bonnes chaleurs. Et là-bas, on a fait une grosse tournée des coffee shops. C'était une petite année avant qu'on ouvre la brûlerie Moka. Et donc, il y a une culture du café au Japon hyper présente, qu'on a même l'impression parfois qu'elle a même détrôné cette cérémonie du thé, toute cette esthétique-là. Et en fait, on a des coffee shops partout. Des férues de café à tous les coins de rue, des torréfactions qui sont assez différentes d'un lieu à l'autre, parce qu'on va avoir des cafés qui sont très torréfiés, très poussés, avec des grains vraiment brillants, quoi. Donc on est sur un autre type de torréfaction, mais dans ces lieux, on sert peu d'espresso, beaucoup de méthodes filtres, et beaucoup de méthodes filtres glacées aussi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié là-bas, c'est donc des infusions lentes comme le cold brew, qui servent avec des glaçons qu'on peut emporter. C'est ce côté, ce qui est agréable, c'est vraiment ce côté, tiens, je prends mon grand café dans un grand mug, je peux me balader avec, aller visiter la ville, j'en ai pour toute la matinée. Enfin, ça va me durer quand même un certain temps. Moi, ce que j'aime bien dans le cold brew que j'ai découvert quand je me formais au métier du café, c'est aussi le fait qu'on a une dose de caféine qui est quand même importante, du fait de cette infusion qui est lente, mais à la fois, c'est diffus. Si on en boit trop, bien sûr, ça peut vraiment exciter. Mais là, on a vraiment un côté agréable.
Est-ce que tu peux d'ailleurs, on peut en profiter pour peut-être la détailler un peu plus pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du cold brew?
Donc le cold brew, c'est une infusion à froid, une infusion lente de café. Pour la réaliser, il y a plusieurs méthodes possibles. On peut la faire assez simplement à la maison en utilisant une carafe, un filtre type filtre à thé. On fait une mouture plutôt grossière. Il y a un grammage à respecter en fonction de sa carafe, tout ça. Ici, on a des carafes Ario. On fait des infusions, en fait. Donc on utilise les filtres qui sont des filtres réutilisables. On met 75 grammes de café pour 700 millilitres d'eau. On infuse à froid, donc on mélange en fait nos 75 grammes de café moulu grossièrement avec ces 700 millilitres. On ferme notre carafe, on la met au frais, minimum 12 heures. Et ensuite, au bout de 12 heures, on retire le filtre parce que l'infusion est terminée. Faut pas surinfuser non plus, c'est pas l'idée. On retire ce filtre et on sert cette infusion qui est très concentrée avec des glaçons dans un verre. Une autre méthode d'extraction glacée, c'est tout simplement de réaliser une technique V60, donc japonaise aussi. Donc c'est un porte-filtre japonais strié dans lequel on vient mettre un filtre papier, on ajoute sa mouture de café et en fait on va faire l'extraction comme on l'a fait habituellement dans une carafe, sauf qu'on rajoute une quantité de glaçons. Donc on fait l'extraction au-dessus avec de l'eau chaude, les glaçons sont en dessous. Et le fait voilà, de faire une extraction chaude qui s'écoule sur ces glaçons, à la fois ça évite l'oxydation et ça entasse, c'est un résultat qui est hyper intéressant et qu'on retrouve souvent là-bas. Quand la belle saison arrive au Japon, ils consomment de plus en plus toutes ces méthodes qu'on peut décliner sur un Chemex, sur plein d'autres cafetières.
Et dans ces cas-là, il faut avoir une idée juste du nombre de glaçons à placer, enfin de la quantité de glaçons aussi, parce que j'imagine que ce glaçon progressivement peut fondre. Ouais. Donc, pour pas trop diluer le café, j'imagine qu'il faut pas non plus trop en mettre.
Ça, tu l'inclus effectivement dans ton dosage. Donc, on va partir, imaginons, sur 30 grammes de café, parce qu'on veut quand même voilà, avoir un résultat en tasse qui soit prenant et que l'eau des glaçons ne dilue pas trop tous les arômes qu'on va avoir. Pour 30 grammes de café, je vais mettre glaçons plus eau chaude confondue, 480 millilitres d'eau. Et en fait, donc on fait un ratio, on met à peu près 160 grammes de glaçons dans notre carafe, le reste en eau. Ça, c'est plus des expérimentations qu'on fait pour l'instant, nous, parce qu'on a moins de demandes et qu'aujourd'hui, voilà, on oriente vraiment notre proposition sur le café glacé et le cold brew, qui sont, dès que la belle saison arrive, on lance la machine à glaçons et les gens sont très habitués à ça.
Et là, par exemple, ce que vous m'avez servi, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement?
Donc ça, c'est un café glacé qui remplace notre ancien café frappé. On n'utilise que des grands verres pour ces boissons. C'est une des grosses boissons phares de la saison parce que je pense qu'au sortir de l'hiver, on est tous contents de pouvoir retrouver des boissons fraîches qui évoquent l'été, la chaleur, qui viennent justement nous rafraîchir. Donc on en vend beaucoup. On est donc sur une base glaçon sur lequel on vient ajouter soit un lait, on bosse avec la laiterie marseillaise pour le lait entier qu'on utilise, ou un lait d'avoine. Le résultat est super, ça va vraiment dépendre des goûts des personnes. On peut aussi le faire sans lait, uniquement avec du café et des glaçons. On t'a servi une base de lait d'avoine, un double shot d'espresso, un filet de sirop d'orgeat. Et par-dessus, en fait, comment on fait ce café glacé? Donc, on y va par couche, par strate. On met d'abord donc, nos glaçons, ensuite notre lait, qu'il soit végétal ou entier. On rajoute les doubles shots d'espresso, délicatement, pour que ça puisse vraiment décomposer un peu les couches. Et par-dessus, on monte une petite quantité de lait. On fait une mousse qu'on va venir poser par-dessus. Ça clôture un peu la boisson et ça vient faire un rendu qui est assez cool en tasse.
Et c'est vraiment délicieux. J'ai la chance de pouvoir siroter ça pendant que tu pendant que t'expliques tout l'éventail de café glacé qui existe. Et donc moi, dans ces moments-là, j'éloigne un peu le micro et je sirote à côté. Donc j'ai beaucoup de chance. Mais donc tu as dit aussi que ça venait remplacer le café frappé que vous avez un jour eu à la carte. Est-ce que tu peux nous parler des différences entre le café glacé et le café frappé?
Le café frappé, il porte bien son nom parce qu'on le shake en fait. On vient le remuer. Donc on va être moins esthétiquement dans une recherche de visuel, là où je trouve que sur le café glacé, on peut vraiment s'amuser, venir créer des couches, venir faire un dégradé. Et après, c'est à la personne qui le déguste de venir vraiment remuer et homogénéiser sa boisson. Là, le café frappé, c'est donc on a des shakers, on mettait notre double shot d'espresso, nos glaçons, notre lait, notre filet d'orgeat, parce qu'en fait, on trouve, et c'est quand même assez fréquent et récurrent, j'ai l'impression aussi dans le sud de la France, d'utiliser de l'orgeat dans ces cafés frappés, glacés. Ça se marie très bien avec le café, les deux sont assez complémentaires. Et on venait shaker le tout, donc les glaçons se pulvérisaient un petit peu et on renversait tout ça dans un verre. Donc après, il y avait de la petite mousse à force de shaker qui remontait en surface du verre. C'est très bon aussi. Ça fait un mélange qui est différent. On a une texture qui est un peu plus travaillée du fait aussi que les glaçons se décomposent. Donc on a une texture qui est différente que le café glacé qu'on fait aujourd'hui.
Mais un peu de mâche en fait, presque.
Oui, c'est ça. Bah, vu que les glaçons se cassent un peu, ça donne un peu de mâche, ça donne un côté un peu plus givré. C'est très différent. Dans l'appréciation et dans l'expérience, on se fait souvent souvent, on prend la carte, on prend certaines de nos recettes et on les teste un peu tous ensemble pour voir ce qu'on en pense. Et là, il n'y avait pas photo entre la recette de café glacé que Zoubida nous a ramené du coffee shop où elle bossait à Séville et du frappé qui était très bon, hein, qui marchait très bien. Et à l'aveugle, les résultats étaient peut-être assez proches. Mais en termes de texture, là, il y a un côté assez gourmand. Peut-être que sur le lait d'avoine, on le ressent un petit peu moins, mais sur le lait... Quand on utilise du lait de vache, c'est aussi assez englobant. Donc bon, on est parti sur cette recette-là. Mais café frappé, oui, je sais que c'est en tout cas grosse tradition en Grèce. Dans pas mal de pays, ils utilisent cette technique du shaker, en fait, qui vient effectivement travailler le rendu très différemment. En café glacé, oui, moi je vois surtout le cold brew, des gens chez eux qui ont du café filtre, tiens, qui vont le mettre au frais et après venir l'agrémenter un peu, le sucrer, qui ont pas envie de le perdre et du coup faire des recettes un peu maison comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens, tout comme nos grands-mères utilisaient le reste de leur cafetière pour faire des gâteaux. Il y a de la récup, donc il y a aussi des variantes un peu informelles de café froid. Et à la technique vietnamienne. Chacun s'approprie un petit peu. Voilà, c'est une base qui est commune pour tout le monde. Et après, il y a les puristes qui vont vouloir vraiment que du café. Et ça s'explique totalement parce qu'on, encore une fois, quand on est sur des torréfactions et une recherche d'arômes précises, complexes, le fait parfois d'y ajouter du lait, du citron, de l'orgeat, tout ça, ça peut être complémentaire, mais ça peut aussi empêcher de vraiment déguster le terroir et de vraiment déguster le café tel qu'il a envie de nous parler à froid comme ça. Nous, les torréfactions, par exemple, que je fais pour filtre, je trouve que le fait de les boire chaudes et froides, elles s'expriment pas du tout pareil. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans le café glacé. Dans une vision de dégustation, je vais préférer vraiment les cafés infusés à chaud. Si je suis en vacances ou alors voilà, dans une optique d'été, de chaleur, il y a un contexte pour moi, il y a vraiment... J'aime le café chaud à l'année et j'aime le café glacé l'été parce qu'il vient vraiment me rafraîchir et me faire redécouvrir ma carte des cafés qu'on torréfie. D'ailleurs, on fait même une annonce pour la mise en service de la machine à glaçons parce qu'on a même des gens qui viennent nous dire « ça y est, là, c'est bon, elle est lancée, vous commencez à servir les frappés ». Parce qu'on a créé une clientèle d'habitués maintenant, de gens qui sont attachés à ce produit-là et à cette boisson-là. Et quand elle revient à la carte... Parce que l'hiver, bah, on en fait tellement moins qu'on éteint cette machine. Et dès que les beaux jours sont là et que la chaleur est là, on en vend. Mais c'est, voilà, il suffit de faire un ou deux postes, d'en parler un petit peu. Et il y a un effet assez amusant qui se produit peut-être un peu moins avec le café parce que c'est un espresso, on l'amène à table. C'est quelque chose de beaucoup plus habituel à voir en terrasse. Mais dès qu'une personne va voir un café glacé... Et ben la table d'à côté va en commander un, puis celle d'à côté aussi. Et en fait, on se retrouve avec une commande, puis avec 4-5 commandes qui arrivent derrière. Et il y a un côté gourmand, il y a un côté alléchant dans le café glacé qui est visuellement, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est... Je ne sais pas si c'est le fait que le verre soit un peu givré ou cette décomposition du café, du lait, de toutes ces couleurs qui donnent autant envie, mais... C'est assez fou comme on le vend, comme cette boisson, elle fonctionne bien.
Il y a un effet presque spritz, alors du coup, dans ce que tu décris.
Oui, c'est ça.
Comme quand quelqu'un se prend un spritz quelque part en terrasse et que tu vois le verre orange arriver, ben, d'un coup, tu dis, bon, ben, en fait, je vais peut-être changer mon Perrier contre un spritz aussi. Est-ce que pour t'amener, Iris, tu peux me dire ce que tu aimes avec le café, en général ?
La découverte du bon café, de ce que c'était que toute cette variété, cette multitude de terroirs, de sensations que tu peux avoir en bouche, là où, bah, plus jeune, que ce soit petite, avec mes grands-parents, c'était des cafés industriels, le bon café grand-mère, tu trempes ton canard. Et c'est vraiment ma vie étudiante et le fait d'avoir rapidement pris l'habitude... Pas à Marseille, parce qu'à l'époque où je faisais mes études à Marseille, il n'y avait pas encore de coffee shop. Mais je suis partie pendant 3 ans vivre à Lyon. Et à Lyon, j'ai découvert l'univers des coffee shops. En voyageant, en allant à Paris, en allant en Europe, en voyageant un peu, je me suis familiarisée avec ces lieux. Et j'ai compris que c'était un sujet hyper vaste, qu'il existait tellement d'origines de café, de variétés, de façons de le préparer. Et une fois qu'on a goûté à ça, c'est hyper dur de revenir en arrière. Je pense qu'une fois que j'ai eu le pied dans ce lieu et que j'ai pu m'approcher de cette machine et apprendre à la connaître, je me suis dit, c'est d'une évidence, en fait, de pour moi, de, au-delà de juste servir des cafés, d'en maîtriser la matière première et d'apprendre ce savoir. Parce que l'odeur, en fait, quand on rentre dans une torréfaction, ça envahit. J'ai l'impression que on devient tout de suite addict, amoureux. Ou pas, hein, mais moi, pour le coup, ça a été... J'avais hâte d'arriver le matin et de me rapprocher de cet endroit pour sentir cette odeur qui inondait toute la rue, quoi. Et aussi le fait de maîtriser encore une fois, encore plus en profondeur, le sujet. D'où vient ton café? Qui l'a produit? La torréfaction, c'est une science infinie. C'est un métier. J'ai fait pas mal de petits boulots avant et ce qui m'a plu et ce qui m'a stimulé là-dedans, c'est qu'à la fois, c'était apprendre encore plus sur un produit, sur le café, en savoir davantage. À terme, un jour, voyager de plus en plus à la rencontre de producteurs et du coup, avoir une proximité avec ceux qui font un si beau travail en fait, de produire ces cafés et de les acheminer jusqu'à nous. Et ça m'anime. Après, ça m'anime, le produit me plaît. Et le fait d'apprendre sans cesse à le transformer, à le torréfier, à faire des réajustements, à faire des erreurs, parce qu'au début, on en fait. Et avoir des retours aussi, tout ça, on est nourri de tous ces retours de clients, de personnes qui goûtent nos cafés. Et c'est, pour moi, voilà, je vois ça comme vraiment un métier dans lequel je me projette longtemps, qui me passionne, où j'apprends tous les jours. Et voilà, et de voir en plus qu'on a donc ce petit café qui, depuis en septembre, ça fera 3 ans, mais qui a conquis pas mal de personnes dans le quartier, d'avoir autant d'habitués, de gens qui reviennent tous les jours, petit pépé du coin à des familles qu'on voit s'agrandir. Et en fait, pour nous, c'est au-delà du produit qu'on veut qualitatif constant, engagé. Il y a aussi tout cet le lieu en fait du café qui fait que c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis lancée là-dedans.
Comme le dit Iris dans cet entretien, il y a les recettes de café glacé de barista, le sommelier du café, et il y a les recettes de la débrouille pour quiconque veut se rafraîchir avec son café. Celles-ci sont infinies. Il m'arrive par exemple d'improviser un café glacé avec mon reste de café refroidi pendant des heures parce que c'est celui du matin. J'y ajoute simplement quelques glaçons et parfois une boule de glace à la vanille pour lui donner un côté gourmand. D'autres fois, je me prépare un cold brew en laissant reposer du café une nuit entière dans ma cafetière à piston ou un café vietnamien que je laisse refroidir au réfrigérateur. Bref, tous les moyens sont bons pour boire du café désaltérant. Merci à Iris Michalon de nous avoir donné de son temps pour parler de café glacé et frappé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux.